voici encore des proverbes de Salomon recueillis par le jeune Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Et on va s'arrêter un petit peu au fur et à mesure comme ça. Donc ici, la première chose à dire, juste de manière informative, c'est que c'est donc Salomon qui écrit les proverbes, mais à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 29, je crois, ce sont des proverbes qui ont été retrouvés un peu plus tard, au moment avant le deuxième exil, donc par les gens du roi Ézéchias, et qui ont fait la compilation avec ce qu'ils ont estimé être des thèmes, on va dire. Donc voilà, donc c'est pas, on va dire, une première écriture avec un tracé qui est fait de A à Z par Salomon tout seul, et le chapitre en lui-même, c'est Salomon qui est le rédacteur complet de la chose. Le contenu, c'est lui. La mise en page, on va dire, c'est pas nécessairement lui. Donc, mais c'est pas grave, c'est juste une chose à savoir. Donc ici, il nous a dit des choses qui sont assez, assez étonnantes, ou en tout cas, ça peut poser la réflexion. Il nous a dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Et je vais vous lire un verset qui est parallèle à Deutéronome 29, 29, 29. Mais avant ça, juste une chose à dire, donc la gloire de Dieu ou la gloire des rois, c'est ce qui fait que le roi ou Dieu est, comment on pourrait dire ça, est mis en avant, ou c'est sa caractéristique principale, ou sa qualité principale, quelque part. Et là, on pourrait se dire, de prime abord, ben, écoute, la gloire de Dieu, si c'est de cacher les choses, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, de qualitatif et de glorieux là-dedans, je sais pas. Mais par contre, je pense que c'est très, 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 très intéressant pour nous de le comprendre un petit peu, de le croire et de le voir un peu, enfin, de le voir, de le réaliser dans notre vie. Parce que, justement, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre vie, on a tendance à vouloir un peu tout contrôler, tout connaître. Et savoir un peu les choses à l'avance. Alors, je veux dire pour preuve, c'est pas une preuve, c'est juste un exemple. Les gens vont voir des voyants. Ils vont lire leur horoscope. Pourquoi ? Pour contrôler mieux, pour savoir ce qu'il y a demain, qu'est-ce qui m'attend, comment je vais m'organiser, etc., etc. Donc, il y a une espèce de désir de contrôle. Ce désir de contrôle, il est dû, je pense, à un il est dû justement à une insécurité, au fait que même si on a l'impression des fois où on croit être, où on fonctionne un peu comme ça, comme étant le centre du monde, nous sommes bien conscients que nous ne sommes pas du tout le centre du monde, nous sommes bien conscients que nous sommes très très petits dans ce monde, sur cette terre, dans cet univers. Et par conséquent, on veut se rassurer. Et on va revenir un peu là-dessus. Avec le point suivant qui aura quelques versets, juste les versets suivants. Mais donc voilà, et donc ici la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et pourquoi c'est important? Deux choses, en fait, premièrement c'est important parce que ça veut dire que nous n'avons pas des explications à tout. Et c'est normal que nous n'ayons pas d'explications à tout, puisque apparemment Dieu cache des choses. La deuxième chose, c'est que ici, en fait, c'est pourquoi je vous ai lu deux fois les versets en entier. C'est parce que il n'est pas simplement dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de les sonder. Il est dit, c'est le verset 3, il est dit, les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont impénétrables, il y a des choses qui sont impénétrables, ça veut dire qu'elles sont cachées pour nous. Et vu que c'est dans la foulée du verset précédent, on peut penser quand même assez aisément que, entre autres, et essentiellement, les choses que Dieu cache et qui, du coup, constituent d'une certaine manière sa gloire, mais ce sont justement ces trois éléments-là. C'est-à-dire que les cieux, dans leur hauteur, la grandeur des cieux, la grandeur de ce qui est l'éternité, le monde, la création et ce qu'il y a après, ça nous est caché. Et nous, peut-être qu'on voudrait atteindre les nuées, mais nous ne le pouvons pas. Deuxième chose, il dit la Terre dans sa profondeur. La Terre dans sa profondeur, ben c'est quoi? Ça veut dire que tous les détails, toutes les petites choses qui sont sur cette Terre, ça nous est aussi caché. Nous connaissons beaucoup de choses et de plus en plus sur cette Terre, mais à un moment donné, il y a une limite. Il y a une limite. Les scientifiques, les chercheurs, etc., etc., ils ont trouvé pas mal de choses, ils avancent encore un petit peu, mais finalement, ils découvrent pas forcément beaucoup plus, parce que on a fait un peu le tour de la question, et donc il y a des profondeurs que nous n'allons pas atteindre, tout simplement. Et la troisième chose, et ça me paraît très très intéressant, plus que la deuxième, on va dire, c'est « et le cœur des rois sont impénétrables ». Et là, je pense que il faut prendre le terme, le mot, le nom roi ici. Je pense pour pas simplement pour les rois ou pour les gouvernants. Je pense qu'il faut le prendre pour le fait que nous sommes les rois de notre vie, dans le sens que nous en sommes les gestionnaires. Et ça veut dire que notre cœur aussi, il est impénétrable. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je pense que oui. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Alors des fois on dit je me connais très bien, ceci, cela, et c'est vrai qu'il y a une certaine partie, et des fois une partie assez grande, on connaît bien, on a de l'expérience avec nous-mêmes, évidemment, etc. Nous avons la vision qui paraît être la plus précise et la plus profonde de nous-mêmes, mais en fait Dieu a une vision encore plus profonde de nous-mêmes. Et en réalité, nous ne pénétrons pas les profondeurs de notre cœur. Et ça, c'est aussi intéressant à savoir parce que sinon, nous avons un jugement qui est faussé sur les circonstances, sur notre vie, sur nos rapports avec les autres, sur notre rapport avec Dieu. Mais quand nous avons à l'esprit que Dieu cache certaines choses, et notamment les choses que nous ne voyons pas et qui sont éternelles, et puis bon, certaines choses sur Terre, et puis surtout, ce qui est le fin fond de notre cœur, c'est-à-dire peut-être nos motivations. Des fois, je ne sais pas vous, mais des fois, je peux arriver à penser ou à faire des choses et à pas me comprendre moi-même. Je pense que ça vous arrive aussi. Bon, peut-être vous moins que moi, parce que bon, vous avez un peu quelques encadrements d'avance, mais des fois, je te dis, mais en fait, qui suis-je? Qui suis-je? Mais je suis qui, quoi? Finalement, au fond, c'est quoi mon truc? Vous savez, c'est comme par rapport à la procrastination, c'est le fait de remettre à demain les choses. Aujourd'hui, vous êtes hyper motivé pour une chose, demain je vais faire ça, demain je vais faire une footing. Je suis hyper motivé, je suis sincère, et puis demain il fait froid et il y a trois gouttes de pluie qui tombent et il n'y a plus de footing, quoi. Alors, je suis qui? Je suis celui qui était motivé hier ou je suis celui qui s'arrête devant la pluie? Vous voyez? Un peu comme, on a un très bon exemple dans les évangiles, on a Pierre. Pierre, quand il dit à Jésus, moi, je te suivrai jusqu'au bout, jusqu'à la mort et tout, il est sincère. Et pourtant, le lendemain, avant que le coq chante trois fois, il a déjà renié Jésus trois fois. Qui est Pierre, en vrai? Qui est Pierre? Parce que dans les deux cas, en fait, il est sincère. Le Pierre qui dit « je vais te suivre jusqu'à la mort », il est sincère. Et le Pierre qui se cache, qui s'écrase, qui a peur et qui fait marche arrière et qui renie verbalement Jésus trois fois, eh ben, il n'est pas inventé non plus. Et donc, du coup, voilà. Et je dis, c'est peut-être important de savoir que nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas pénétrer le plus profond de notre cœur. Parce que du coup, nous arrêtons d'essayer de comprendre des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Et nous acceptons aussi une chose, c'est que ces choses-là sont dans les mains de Dieu. Et ça peut être un peu rassurant. Et le troisième point par rapport à ça, c'est, je vais vous le lire vite fait, c'est Deutéronome 29, verset 29. Très intéressant ce verset, donc à la fin du Pentateuque, à la fin de la vie de Moïse, en fait. Et il dit les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ça veut dire que la gloire du roi, c'est de sonder les choses, mais pour mettre en pratique. et nous, autre part, c'est quoi? Dieu cache des choses, mais nous, on a besoin d'être assurés du fait que, du coup, c'est dans ses mains. Par contre, nous avons des choses à explorer, à sonder, et ici, il nous est dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes ces paroles. Et ça, c'est une chose intéressante. Ma part n'est pas de découvrir ou de chercher les choses cachées que Dieu cache et que nous n'allons jamais trouver. C'est c'est plutôt de sonder et de mettre en pratique les choses qui sont révélées. Donc la question, c'est plutôt qu'est-ce qui m'est révélé? Qu'est-ce qui m'est révélé? Et donc, en l'occurrence, notamment dans la Bible, qu'est-ce qui m'est révélé de la parole de Dieu? Tout ne m'est pas révélé. Tout ne m'est pas révélé. Le mystère de l'identité ne m'est pas révélé. Comment fonctionne le libre arbitre, ben, ça ne m'est pas révélé. Ça ne sera peut-être même jamais révélé parce qu'il n'y a peut-être pas de grande explication à ça. Et au lieu de passer mon temps à chercher des réponses à pourquoi Adam a chuté, pourquoi le diable s'est éloigné, pourquoi certains choisissent ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, ben, il faut peut-être se dire, ça, ce sont des choses cachées. Ce sont des choses mystérieuses, secrètes, qui appartiennent à Dieu. Et qui ne m'appartiennent pas à moi dans le temps que je suis en train de vivre, en tout cas. Par contre, il y a d'autres choses qui m'appartiennent. Ce sont les choses révélées. Et je suis appelé à sonder les choses révélées et à les mettre en pratique. Et ce qui est révélé, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, c'est la pensée de Dieu. Et c'est là que j'ai besoin d'avancer. Alors ensuite, verset 4... Il nous est dit autre chose, il nous est dit « ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur, ou pour l'orfèvre, selon la version. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. » Et là, c'est très intéressant, ça m'a bien parlé, on va dire. Donc, il est dit « ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. » Les scories dans notre âme, ce sont les péchés. Les scories dans notre âme, c'est ce qui me sépare de Dieu. Voilà. Et donc, il est dit d'enlever ces scories afin que l'orfèvre ou le passé, l'orfèvre ou le fondeur, il va avoir un vase qui va lui être utile, qui va être efficace. Et c'est très intéressant, vous allez voir un peu ma réflexion. On va d'abord aller voir un passage parallèle dans le Nouveau Testament. Je vais essayer de pas trop m'y attarder, même si j'ai des choses à dire dessus, mais je vais quand même essayer de pas trop m'y attarder, parce que sinon je n'arriverai pas au fin de ce que je veux faire. Mais en 2 Timothée chapitre 2, et au verset 19 et 20, il y a dit des choses, je vais vous les commenter, et ça va être assez intéressant. Parce que vous savez qu'il y a d'autres endroits dans la Bible où il est parlé de vases. Donc il dit, nous possédons un trésor dans un vase de terre. Des fois, la notion de vase, elle est positive, des fois elle est négative. En tout cas, ce n'est pas linéaire dans les Écritures. Peut-être contrairement à ce que certains ont peut-être tendance à vouloir... dire ou expliquer. Et donc en 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 19, ouais c'est ça je crois, oui, ouais c'est ça. Bon, on va lire le verset 19, comme ça on est dans le contexte. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Comme, il nous est dit, d'enlever les scories, afin qu'il y ait un vase pour le fondeur ou pour l'orfèvre. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et ici, il y a des, voilà, on va pas épiloguer, mais en tout cas, il y a des commentateurs qui voient en fait dans ces vases d'honneur d'un côté et les vases, comme il est dit, donc dans une maison, il y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Et il voit un côté extrêmement négatif à ce usage vil. Et ils estiment que la grande maison c'est l'Église et que dans l'Église vous avez le blé livré et que donc si vous voulez livrer, qui serait le faux croyant on va dire, c'est lui qui serait le vase d'usage vil. Et donc, moi, je suis pas du tout d'accord avec cette manière de voir les choses. Je pense que c'est même une manière qui peut être culpabilisatrice et pas à bon escient, pour plusieurs raisons. Premièrement, si dans l'Église, il va y avoir que des vases d'honneur, donc des vases sanctifiés, des vases qui vont bien, peut-être que notre Seigneur, peut-être qu'il n'a pas beaucoup de vases sous la main, alors. Déjà, premièrement. Deuxièmement, si ça veut dire que ce sont que les croyants, les vrais croyants, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de croyants à travers les âges. Et puis surtout, moi, ce que je pense là-dedans, c'est que je pense qu'on doit interpréter le texte tel qu'il nous est donné, et pas forcément faire des applications bien grandes et faire des liens avec des versets qui n'ont absolument rien à voir. Et pour moi, effectivement, la grande maison, quelque part, ça peut être l'Église, mais je pense que le but n'est même pas de dire que c'est l'Église, c'est de simplement donner une image. Dans une maison, vous avez des vases qui ont une certaine utilité et des vases qui ont une autre utilité. Il y a des vases qui ont une certaine valeur et des vases qui ont peut-être une valeur différente. Et c'est intéressant parce que ici, quand il est parlé des vases d'usage vil, en fait, au-dessus, en fait, ça correspond à des vases de bois et de terre. Mais quel est le problème des vases, que un vase il soit en bois ou en terre? Il est utile pour la consommation, pour la cuisine, pour ce que vous voulez. Alors, il a pas l'honneur, il a pas la brillance d'un vase, effectivement, d'honneur qui se répète d'or, etc., etc., comme il nous est dit au début du verset. Et je pense qu'on a besoin de comprendre que dans l'Église, il y a toutes sortes de vases. De comprendre qu'à un moment donné, nous pouvons être un vase qui a une certaine nature et que nous pouvons devenir un vase d'une autre nature. Et que nous n'avons pas à juger les vases en bois et en terre parce que il nous semble, et ce n'est pas faux, que l'objectif est d'être un vase d'honneur et d'être un vase effectivement en or, etc., etc. C'est vrai que quelque part c'est l'objectif. Mais ça ne veut pas dire que le maître de la maison rejette, casse ou met à la poubelle les vases de terre et les vases de bois. Et donc, on a besoin de se regarder les uns les autres comme étant des vases du Seigneur qui possédant un trésor, effectivement, dans un vase d'argile, en l'occurrence dans un vase d'argile, pas dans un vase d'or, mais surtout de voir que nous sommes des vases du Seigneur et des vases qui sont utiles à certains niveaux, à certains degrés, et en même temps que nous n'allons pas nous juger et n'allons pas avoir d'exigence sur les autres, nous allons juste considérer une chose, que nous sommes tous des vases, et nous allons considérer également effectivement qu'il y a quand même un objectif dans la vie chrétienne malgré tout, qui s'appelle théologiquement la sanctification. Et c'est ce que signifie doter les scories pour faire un vase utile au maître. C'est ce que cela signifie au verset 19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc le fondement c'est quoi? C'est le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et ensuite, dans une grande maison, il y a de tout. Et effectivement, cette grande maison, c'est l'Église. Mais simplement, c'est une description. Il y a de tout. Parce que dans le même livre de Timothée, il est dit que celui qui renie le Seigneur, en fait, Dieu lui reste fidèle. Il peut pas se renier. Donc ça serait un petit peu incompatible de voir une espèce de degré entre les vases qui serait, on va dire, irrépréhensibles, qui seraient disqualifiants, etc. Ou de voir que ce sont carrément des non-croyants qui sont dans l'Église. Pour moi, ça n'a pas forcément énormément de sens. Donc, on va revenir dans Proverbe 25 et donc avoir cette idée de la sanctification. Et pourquoi? Parce que je vais continuer un peu mon idée, même si peut-être que je n'irai pas, éventuellement je n'irai pas au bout du Proverbe 25, mais je pense qu'on va quand même y arriver. Parce qu'en fait, il y a une réflexion que je me suis faite en écoutant un message qui n'a pas forcément grand chose à voir avec ce soir. Je me suis fait une réflexion, en fait. Pourquoi se sanctifier? Pourquoi marcher correctement avec Dieu? Pourquoi éviter de pécher? Est-ce que c'est juste parce que c'est bien? Est-ce que c'est juste pour protéger les autres? Est-ce que c'est juste pour un bienfait dans notre vie personnelle? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et je trouve que ici, en fait, il y a une autre motivation. Et je vais vous l'expliquer. C'est que, on va prendre le problème à l'envers. Pourquoi je pêche? Pêcher, ça veut dire que je ne suis pas en communion avec Dieu, mais en gros, je fais, d'une manière ou d'une autre, je fais l'inverse de ce que Dieu demande. Donc, je pense autrement que ce que Dieu demande, je fais des choses que Dieu ne demande pas, ou je ne fais pas les choses que Dieu demande, et pareil pour la parole. Et pourquoi est-ce que je ne fais pas ce que Dieu demande? Eh bien, peut-être que je ne fais pas ce que Dieu demande parce que je n'ai pas confiance en lui. Et pourquoi je n'ai pas confiance en lui? Eh bien, je n'ai pas confiance en lui peut-être parce que je ne le connais pas. Parce que je ne le connais pas. Du coup, le but de ôter de l'argent les scories, il en sortira un vase utile. Le but, c'est quoi? Le but, c'est peut-être d'avoir confiance en Dieu. C'est d'avoir confiance en Dieu, en fait. Le but de la sanctification, c'est peut-être d'avoir confiance en Dieu pour continuer d'être de plus en plus dans les voies de Dieu, en fait. Vous voyez un peu le cheminement. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'on va voir un peu plus loin. On va voir un peu plus loin une chose. Alors, juste, j'appuie un petit peu plus sur la chose, au verset 5, donc la deuxième partie de l'idée, là, donc verset 4, ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Verset 5, ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Intéressant, si vous enlevez le méchant de devant le roi va être plus fort grâce à la justice, parce qu'il n'y a plus le méchant devant, en fait. Et ça, c'est juste une image pour nous également, en fait. Comment est-ce que nous pouvons arriver à vivre la justice de Dieu en ôtant le méchant de devant le roi? En ôtant le méchant qu'il y a en nous? Parce que nous avons deux natures et il y a un méchant qui doit être ôté comme une scorie afin que nous soyons un vase utile pour le fondeur et afin que le roi, celui qui doit être le roi de ma vie, puisse s'affermir dans ma vie par la justice. Parce qu'il va y avoir la place à cette justice à partir du moment où moi, dans ma vie, j'ôte le méchant, j'ôte les scories, j'enlève ce qui est de la chair, etc. Et du coup, le but de faire des choix pour Dieu, d'obéir à Dieu, de faire les choses que nous savons être bien, etc., ce n'est pas une finalité en soi. C'est d'apprendre à faire confiance à Dieu. C'est de connaître de Dieu et c'est d'avoir la justice et le caractère de Dieu qui s'affermit à l'intérieur de notre vie de manière concrète parce que justement nous faisons place et le but est que nous fassions place en fait, tout simplement. Et ça signifie aussi une chose, c'est que nous comprenions un petit peu plus que notre vie ne nous appartient pas et le but de la vie n'est pas de s'amuser. La grande pensée à la mode depuis quelques décennies, puisqu'on a enlevé Dieu de la réflexion, on va dire, sur la vie, c'est de dire, la vie est courte, il faut en profiter. Voilà, profite aujourd'hui parce que demain, il n'y a rien. Donc, dit autrement, amuse-toi, ou essaye de t'amuser, ou essaye de trouver le bonheur, ou essaye de trouver des satisfactions. Mais en fait, nulle part Dieu ne nous propose ce chemin-là dans la Bible. Notre vie ne nous appartient pas, Et le but de la vie n'est pas de s'amuser. Le but de la vie, c'est de connaître Dieu et de marcher avec lui, de lui faire confiance, de le connaître de plus en plus profondément et d'être connu par lui. Ça, c'est le but de notre vie. Donc, dit autrement, on va dire autrement avec un terme que nous avons utilisé dans les premiers versets de Proverbe 25, c'est de glorifier Dieu dans notre vie. Et glorifier Dieu dans notre vie, c'est quoi? C'est penser de plus en plus comme lui, c'est d'obéir de plus en plus, mais c'est surtout de lui faire confiance et de le connaître tel qu'il est, et de vivre réellement sa présence dans nos vies. Et pas simplement suivre un programme ou essayer de faire du bien, ou essayer de s'amuser, ou je sais pas quoi. Vous voyez? Et on va continuer un peu, vous allez voir. C'est intéressant. Je vais vous lire deux bouts de versets, en fait. Comment j'avais mis ça? Verset 1 à 3, ce sont les mystères. Verset 4, 5, c'est la sanctification. Verset 6 et 7, je vous les lis rapidement. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Donc là, ça nous parle en fait simplement de l'humilité, qui est une caractéristique qui doit être toujours présente dans notre vie, parce que sinon nous faisons une fausse route. Et ensuite, du verset 8 à 12, il est parlé de disputes, mais je vais vous lire quelque chose. Je vais vous le lire, puis je vais juste faire un commentaire. Verset 8, ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Ça, c'est très intéressant. Il ne nous est pas dit de ne pas nous défendre quand il y a un problème, on va dire, relationnel. Il nous est dit de ne pas révéler les secrets d'un autre. Dieu nous donne une limite. Et cette limite, souvent, elle est au niveau de la bouche, au niveau de la parole. Tu as un conflit, défends-toi. Mais il y a une limite, il y a une mesure. Cette mesure, c'est que tu n'as pas le droit de révéler les secrets d'un autre. Donc, il y a des choses que tu n'as pas le droit de dire sur ton ennemi, on va dire, ou sur celui qui t'a causé du mal. Tu peux te défendre, mais il y a des choses que tu n'as pas le droit de dire. C'est tout. Ce sont des secrets, ce sont des choses qui appartiennent à lui et que tu n'as pas à mettre sur la place publique. Sinon, Dieu risque d'être un petit peu contre toi. De peur qu'en apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Verset 11. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Donc là, on voit l'importance qu'il est de l'usage de nos paroles dans le concret de la vie chrétienne. Puis je ne vais pas vous dire plus, mais du verset 13, jusqu'à 28, il est parlé de bons et de mauvais exemples. Et on ne va pas forcément trop s'arrêter, mais on va quand même s'arrêter sur certains versets pour relever quelque chose. Il est dit, déjà au verset 15, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Et une langue douce peut briser des os. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que déjà, je viens de vous lire deux versets au-dessus qui parlent de comment est-ce qu'on doit utiliser notre bouche et de l'importance de nos paroles. Et ici, il nous est dit qu'en fait, il y a une attitude et il y a des paroles qui ont une puissance que nous n'imaginons pas. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. C'est quand même fort. Et encore plus fort. Et une langue douce peut briser des os. Ah, vous voulez vous venger de vos ennemis? Eh bien, soyez lent à la colère et ayez une langue douce. Et ça sera meilleur, ça sera le chemin que Dieu nous propose. Et maintenant, verset 16, qui n'est pas forcément en rapport avec cela, il est dit, si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Et là, on se dit, pourquoi il vient nous parler de miel? Surtout qu'à la fin du chapitre 25, là, du premier 25, il va à nouveau nous parler de miel au verset 27. Il est dit, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Je vais vous le lire dans une autre version après. Ça dit un petit peu différemment. Le miel, c'est quoi? C'est quelque chose qui est doux, c'est quelque chose qui est facile. Et c'est de ça que ça parle. Il n'est pas dit de ne pas manger le miel, il est dit de ne pas en manger beaucoup. Donc, si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. Parce qu'en fait, les choses faciles de la vie, en fait, à un moment donné, on va les vomir. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le but de la vie, c'est pas de manger du miel. C'est pas de s'amuser. C'est pas de manger du miel. Le but de la vie, c'est pas ça. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, autre chose. Donc, il peut être bien de manger du miel, il peut être bien de profiter de certaines choses dans la vie, mais avec une certaine mesure. Et donc, au verset 27, il dit, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Donc ça veut dire qu'apparemment, plutôt que de chercher les choses faciles qui est le miel, je dois être un peu intéressé par qu'est-ce que je peux apporter aux autres. Mais j'ai une autre traduction qui dit autrement, et je trouve ça intéressant parce que finalement c'est complémentaire avec l'idée du verset ici, et c'est complémentaire avec ce que j'ai voulu vous expliquer depuis le début par rapport à la sanctification. Donc dans la Bible Semeur, il est dit, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais étudier des choses importantes, voilà ce qui est important. Voilà ce qui est important. Et ça c'est pas mal parce que c'est qu'est-ce qui est important à étudier? Ce qui est important à étudier, c'est forcément c'est quoi? Ce sont les révélations que Dieu nous a données, comme on l'a vu en Deutéronome 29. Mais d'une autre part, c'est quoi? C'est de mettre en pratique ce qui nous a été révélé. Ce qui nous a été révélé, c'est ce livre, c'est la Bible, c'est les paroles de Dieu. Et ça, voilà, le but de la Bible, c'est pas de manger du miel, c'est d'étudier les révélations de Dieu qui sont dans ce livre. Ça, c'est la chose qui est importante. Et pourquoi? Parce que en Romains, il nous est dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais comment est-ce que nous pouvons trouver la foi si nous n'étudions pas la parole de Christ? Les révélations qui nous sont, par définition, révélées, évidemment. Et toute la chose, elle se passe là, en fait. Donc, juste, je voulais terminer juste avec ça et conclure. Se dire que, en fait, on peut manger du miel, mais pas trop. Et le but de la vie, c'est qu'est-ce que l'on peut apporter aux autres, parce que ça c'est le cœur de Dieu, mais le but de la vie c'est d'étudier ce que Dieu a révélé afin d'avoir de plus en plus confiance en lui et du coup d'obéir et de marcher dans ses voies et d'être dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous et nous pourrons y rentrer que par ce processus qui est d'étudier la révélation de Dieu dans le but de lui faire confiance afin d'obéir et de marcher sur le chemin qui nous est proposé. Et ça, c'est la sanctification que l'on voit ici en Proverbe 25 à travers ce que je vous ai montré. Et du coup, au lieu d'être des vases peut-être moins importants, des vases qui sont dits être vils ou des vases qui sont, une autre traduction appelle ça des vases communs en fait. Et c'est vrai que dans le temple, vous aviez des vases ou d'autres ustensiles qui pouvaient être de la même matière, et les uns étaient utilisés pour le service et d'autres étaient utilisés pour la cuisine courante par exemple. Et quelle était la différence entre un couteau ou une fourchette, on va dire, dans le temple et celui qui était dans votre maison? Ben, l'un était d'un usage commun et l'autre était pour le temple. Donc, il y avait un honneur supplémentaire. Est-ce que ça faisait que celui qui était dans votre maison, c'était bon à jeter aux orties? Ben, non, pas forcément. Et dans la maison de Dieu, c'est pareil. Donc, notre but est de rechercher malgré tout la sanctification. Et la sanctification, c'est cette confiance que nous allons trouver à travers la révélation de Dieu. Merci de m'avoir écouté.